Est-ce que vous avez vu le cratère? Le cratère enflé, grandir tout au long de cette célébration, au long de ces lectures. La résurrection commençait déjà à avoir lieu, déjà à la création. Vous l'avez vu, ce cratère? Alors, si vous ne l'avez pas vu, si nous ne l'avions pas vu, alors regardons ce tombeau vide. Vous avez vu à quoi il ressemblait en Palestine? C'était des cavités dans les collines, des cavités qui ressemblent à la grotte de la Nativité. C'est comme ça, c'était des cavités qui servaient à naître, qui servaient à ressusciter pour Jésus. Des cavités, c'est un cratère ouvert, c'est ça le signe, c'est là. C'est le signe du ressuscité. Et puis, le baptistère, on ira. Les premiers chrétiens se sont dit, on le voit dans le Néguev, mais comment représenter ce cratère de la résurrection? Eh bien, un baptistère. Le baptistère, c'était dans la roche. Et puis, on devait plonger dedans, en forme de croix, mais il fallait se plonger dedans. L'Église n'a pas su, ne savait pas par quel moyen exprimer ce cratère de la résurrection qui enfle, qui grandit. Alors, le feu, et le feu du cratère, mais oui, pourquoi pas. La lumière, on l'a vu, le feu du cierge, et oui, pourquoi pas. L'eau du baptistère, l'eau de notre baptême, le cratère. À quoi ça correspond alors, ce cratère sur lequel nous nous sommes baladés dehors autour du feu? Autour du feu et sur lequel nous nous trouvons, sur cette crête du cratère, nous nous trouvons aujourd'hui. Mais c'est quoi ce cratère? Eh bien, c'est la distinction entre la temporalité, notre manière de voir le temps avec nos philosophes, nos cultures, nos mentalités différentes, nos manières différentes de voir le temps. Je vais à un confrère, prêtre à Miribel. Et il me disait toujours, quand il n'avait pas envie de remplir ses agendas Gmail, il était du Congo, il me disait, vous avez les horloges, nous on a le temps. Le temps, on a des visions différentes du temps. Eh bien, on a des manières différentes du temps, entre le temps, la temporalité, qui est de l'autre à l'extérieur du cratère, et à l'intérieur du cratère, c'est l'éternité de Dieu qui jaillit dans notre temps. C'est le temps de Dieu. Ce sont deux manières de voir le temps complètement différentes. Mais ce qui va prévaloir, c'est le temps de Dieu, c'est le temps du ressuscité. Et il va nous entraîner, nous emporter là-dedans. C'est quoi alors le temps du monde? Eh bien, c'est le temps de Platon, d'Aristote. Ils voient quoi? Mais ils disent, c'est une accumulation d'instants. Et ça fait une ligne de laquelle on n'arrive pas à sortir. C'est le temps des physiciens. On est prisonnier de ce temps-là, quoi. Bon, ben c'est bien, c'est vrai. Enfin, quelque part, c'est vrai, cet axe du temps. Et puis d'autres qui disent, attention, c'est aussi le temps psychologique. Augustin qui dit, dans notre mémoire, dans la perception qu'on a du temps, eh bien, il y a un peu le passé, il y a le présent, mais, et puis il y a l'avenir quand on chante. Si on était juste dans l'instant présent, on n'entendrait plus la note du passé, on n'entendrait que celle du présent, elle n'aurait pas de sens, et on n'attendrait pas la note de l'avenir. On a un temps psychologique, oui. Et puis il y a le temps différent en Inde. On se dit, on a l'impression que le temps retourne toujours sur lui-même, qu'il est cyclique. Donc ce qui a eu lieu, mais Coëlette aussi dans la Bible, il le dit, ce qui s'est passé, ça va se passer de nouveau, tout est vanité, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, ce qui fut, cela sera, ce qui s'est fait, se refera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On le sait, Coëlette pensait comme ça, c'est cyclique, à tel point qu'en Inde, on croit même avoir à pressentir l'avenir à partir du passé, parce qu'on se dit c'est cyclique, ça se répète. Ouais, on est un peu prisonnier du temps. On a des conceptions différentes. Et puis, on a aussi des philosophes actuels, des philosophes comme Heidegger en Allemagne, qui a conçu la philosophie du temps, Zeitgeist, et qui dit, l'être, l'homme est fait pour la mort. Il est jeté dans l'espace-temps pour la mort. Dès qu'il naît, c'est la mort qui commence à progresser en lui. Il est fait pour mourir. Ah, on a différentes conceptions du temps. Et alors celle de Jésus, mais vous vous rappelez, dans l'Évangile, déjà dans les premiers temps où les disciples, il commençait son apostolat Jésus, et Jésus annonce que le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Peplerostai to kairos, en grec. La plénitude du temps est arrivée. Personne ne comprenait rien à ce qu'il disait Jésus. Mais non. Mais il y avait une intuition. Il y a une plénitude du temps. Il nous fait entrer dans un temps nouveau. Alors les disciples, quand ils le voient, quand ils le perçoivent, quand ils l'entendent, ils sortent de leur métro, boulot, dodo de Capharnaüm. Il y avait déjà le métro. Métro, boulot, dodo, comme Coëlette. Là, les disciples disent, ah, tiens, il nous fait entrer dans un temps nouveau, on va le suivre, on va abandonner notre métier de pêcheur. Il se passe quelque chose. Et saint Paul, il va dire, après la résurrection, il va dire dans la lettre aux Galates 4:4, quand va la plénitude du temps, pléronoma to chrono, Dieu a envoyé son Fils. Plénitude du temps. Ça veut dire que Paul avait cette perception du cratère. On vivait notre temps, on était prisonnier du temps, on se disait, mais bon, et puis de toute façon, ce qu'on a vécu, on va le vivre encore. À quoi ça sert de vivre? Ça, il y en a quand même pas mal de nos contemporains qui se le disent, hein, c'est vrai. Hein, une conception du temps, et Paul dit, quand il a commencé à annoncer le royaume, il a dit « la plénitude du temps est arrivée ». Désormais, il y a l'éternité de Dieu qui jaillit dans notre temporalité. Alors, ça va faire quoi? Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Mais Jésus, il montre qu'il est dans le temps du Père, toute sa vie. Toute sa vie. Il dit « je vais prier sur la montagne le soir, le matin ». Et les disciples le voyaient. Hein. Et il disait, ce qui m'importe, c'est de me recevoir du Père. Je vais essayer de comprendre ce que le Père veut. Moi, je suis dans le temps, mais c'est le temps du Père. Et je vais essayer de faire ce qu'il me dit. Je vais essayer d'exprimer ce que je le vois, comme je le vois. Je vais essayer toute ma journée de me recevoir de lui, sans essayer de brûler les étapes. Non. Jésus n'a jamais brûlé les étapes. Il a respecté le temps. Il a respecté les temps. En se recevant du Père avec confiance, dans cette relation avec le Père. Et il implique les disciples à entrer dans la relation avec le Père. Le temps prend du sens pour Jésus parce que le temps, c'est ce qui nous est donné pour nous donner. C'est ce qui nous est donné pour obéir au Père. C'est ce qui nous est donné pour nous exercer à entrer dans cette relation vivante avec le Père à tout instant, de nous recevoir de lui à l'instant T. Et ce que les disciples, ce dont ils ont l'intuition en côtoyant Jésus, en le suivant, vous vous rappelez l'épisode sur la mer de Tibériade, c'était près de Capharnaüm, de l'autre côté du cratère, là où il y avait métro, boulot, dodo, ils se trouvent sur le lac de Capharnaüm, il y a une tempête, ils ont peur comme beaucoup de nos contemporains, avec tout ce qui se passe, avec le Covid, avec les guerres, avec tout ce que l'on peut prévoir de destruction massive et de désastres écologiques. Il y a une tempête, une terrible tempête sur le lac de Tibériade. Ils ont peur. Ils pensent que désormais tout est fini. Et Jésus est maître du temps, maître des eaux. Il calme la tempête et déjà ils disent « Maître, Seigneur ». Ils ont l'intuition que là, c'est l'éternité qui a jailli dans leur temps. Et Jésus les entraîne dans un temps nouveau. Le temps de la relation au Père. Et tout prend du sens, tout prend un sens nouveau. Tout ce qu'il vivait avant, quand c'est vécu dans la relation au Père, prend un sens complètement nouveau. Et ils ont même l'intuition, mais ils ne savent pas le dire, et ils n'osent pas y croire, que la relation de Jésus avec le Père est éternelle. Que même le temps que même la mort n'aura pas le dessus sur cette relation. Ils le perçoivent. Ils le perçoivent même autour de la croix, quand Jésus se tourne vers le Père, qu'il rend l'esprit, il se passe quelque chose. Est-ce que la mort aura le dessus sur cette relation ? Alors Pierre est encore un peu abasourdi de tout cela. Les femmes précèdent, elles ont l'intuition qu'elles viennent embaumer le corps, que cette relation ne peut pas mourir. Elles en ont l'intuition. Les femmes ont quand même plus d'intuition que les hommes en général. Elles sont là. Pierre est un peu endormi. Oh, l'âge, vous savez. Et Jean, qui est encore jeune, il court le premier, comme un lièvre de Pâques. Il arrive le premier, le tombeau est vide. Mais il voit un signe. Le linge est roulé. Il n'est plus là. Il dit, c'est ce qu'il disait. Les Écritures s'accomplissent. Je ressusciterai. Il est vivant, c'est le signe qu'il est vivant. Jean comprend que cette relation ne pouvait pas mourir. Alors c'est le temps qui se retourne. Vous voyez, le cratère engouffre, prend tout. Le cosmos rentre dans le cratère. La manière de concevoir le temps, avec la mort pour la mort, désormais est cassée, c'est fini. Parce que tout le cosmos rentre dans le cratère de l'éternité. Quand on est avec le Christ, quand on entre dans sa relation avec le Père, cette relation ne peut pas mourir, elle est éternelle. On entre dans l'éternité. Toute la création entre dans l'éternité. Nous n'avons plus peur. Et le temps ne nous fait plus peur, le temps du cyclique, le temps comme si le destin devait avoir le dessus sur nous, comme si le Seigneur ne nous offrirait pas jour après jour les moyens d'affronter le cours du temps pour le vivre en vue de la résurrection. Alors Grégoire de Nice, un père de l'Église, il dit, mais quel sens a le temps maintenant ? C'est quoi le temps ? Le temps, avec cette résurrection devant nous, où la relation avec Dieu a le dessus sur la mort et aura le dessus sur notre mort, c'est quoi le temps ? C'est juste le temps de notre chemin vers Dieu, le temps de notre découverte du feu, le temps de la découverte de la vie, le temps de ce sens de la vie. Et Jésus, alors, à ceux qui croient en cela, dans cette relation au Père, il donne des signes. Et il se manifeste vraiment aux disciples, d'abord aux femmes, quand même, hein, d'abord aux femmes. Eh oui, parce qu'elles ont compris avant les autres, quoi. Mais il se manifeste par des signes tangibles, c'est pas de l'illusion, il est vivant, il donne des rendez-vous et il va se manifester de manière différente, mais à nous aussi, aujourd'hui. Nous qui avons été baptisés à terre du baptistère, hein, nous qui avons été engouffrés dans le mystère de cette éternité qui a jailli dans le temps, nous aussi, si nous vivons le temps de Dieu en relation avec lui, nous percevrons des signes nouveaux dans notre vie. Notre vie deviendra signe. Et les gens qui cherchent Christ ressuscité, en nous voyant Église de baptisés, de déifiés, ils comprendront que cette résurrection n'est pas une illusion, mais qu'elle a envahi notre chair, que désormais notre chair a été prise par le temps de l'éternité. À l'Eucharistie, c'est cela. Notre chair fera communion avec sa chair de ressuscité. C'est du réel, il est vivant. Il nous donne des signes et nous devenons des signes du ressuscité. Désormais, toutes les conceptions du temps ont été retournées par le jaillissement de l'éternité de ce cratère.